Chapitre 13. Le boulanger François, le parti qu'on peut tirer d'une tête coupée. Nous n'essayerons pas de dire comment s'écoula cette nuit pour les deux femmes. À 9 heures du matin seulement, nous retrouvons la reine, les yeux rougis par les larmes, les joues pâlies par l'insomnie. À 8 heures, c'est-à-dire au jour presque naissant, car on était à cette triste période de l'année où les journées sont courtes et sombres. À 8 heures, elle avait quitté le lit où elle avait en vain cherché le repos pendant les premières heures de la nuit et où, pendant les dernières, elle n'avait trouvé qu'un sommeil fiévreux et agité. Depuis quelques instants, quoique d'après l'ordre donné, personne n'osât entrer dans la chambre, elle entendait autour de son appartement ces allées et venues, ces bruits soudains et ces rumeurs prolongées qui annoncent que quelque chose d'insolite se passe à l'extérieur. Ce fut à ce moment que, la toilette de la reine achevée, la pendule sonna 9 heures. Au milieu de tous ces bruits confus qui semblaient courir dans les corridors, elle entendit la voix de Weber qui réclamait le silence. Elle appela le fidèle valet de chambre. À l'instant même, tout bruit cessa, la porte s'ouvrit. « Qu'y a-t-il donc, Weber ?» demanda la reine. « Que se passe-t-il dans le château et que signifient toutes ces rumeurs ?»« Madame, dit Weber, il paraît qu'il y a du bruit du côté de la cité. »« Du bruit ?» fit la reine. « À quel propos ?»« On ne sait pas encore, madame. Seulement, on dit qu'il se fait une émeute à cause du pain. » Autrefois, il ne serait pas venu à la reine cette idée qu'il y avait des gens qui mouraient de faim, mais depuis que, pendant le voyage de Versailles, elle avait entendu le dauphin lui demander du pain sans qu'elle pût lui en donner, elle comprenait ce qu'était la détresse, la famine et la faim. « Pauvre Jean !» murmura-t-elle, se rappelant les mots qu'elle avait entendus sur la route et l'explication que Gilbert avait donnée de ces mots. Il voit bien maintenant que ce n'est ni la faute du boulanger ni de la boulangère s'ils n'ont plus de pain. Et puis, tout haut, et craint-on que cela ne devienne grave ? Demanda-t-elle. Je ne saurais vous dire, madame, il n'y a pas deux rapports qui se ressemblent, répondit Weber. Eh bien, reprit la reine, cours jusqu'à la cité, Weber, ce n'est pas loin d'ici, vois par tes yeux ce qui se passe et viens me le redire. « Et monsieur le docteur Gilbert ?» demanda le valet de chambre. « Préviens Campan ou Misery que je l'attends, et l'une ou l'autre l'introduira. » Et puis, jetant cette dernière recommandation au moment où Weber allait disparaître, « Recommande bien qu'on ne le fasse pas attendre, Weber, dit-elle. Lui qui est au courant de tout nous expliquera ce qui se passe. » Weber sortit du château, gagna le guichet du Louvre, s'élança sur le pont, et, guidé par les clameurs, suivant le flot qui roulait vers l'archevêché, il arriva sur le parvis de Notre-Dame. Au fur et à mesure qu'il s'était avancé vers le vieux Paris, la foule avait grossi et les clameurs étaient devenues plus vives. Au moment de ces cris, ou plutôt de ces hurlements, on entendait de ces voix, comme on en entend seulement au ciel les jours d'orage et sur la terre les jours de révolution. On entendait des voix qui criaient « C'est un infameur ! À mort, à la lanterne, à la lanterne !» et des milliers de voix qui ne savaient même pas de quoi il était question et parmi lesquelles on distinguait celles des femmes, répétaient de confiance et dans l'attente d'un de ces spectacles qui font toujours bondir de joie le cœur des foules, « C'est un infameur ! À mort, à la lanterne !» Tout à coup, Weber se sentit frappé d'une de ces violentes secousses, comme il s'en fait dans une grande masse d'hommes quand un courant s'établit. Et il vit arriver par la rue chanoinesse un flot humain, une cataracte vivante au milieu de laquelle se débattait un malheureux, pâle et aux vêtements déchirés. C'était après lui que tout ce peuple en avait, c'était contre lui que s'élevaient tous ces cris, tous ces hurlements, toutes ces menaces. Un seul homme le défendait contre cette foule, un homme qui faisait digue à ce torrent humain, cet homme qui avait entrepris une tâche de pitié au-dessus des forces de 10 hommes, de 20 hommes, de 100 hommes, c'était Gilbert. Il est vrai que quelques-uns, parmi la foule, l'ayant reconnu, commençaient à crier « C'est le docteur Gilbert, un patriote, l'ami de monsieur de Lafayette et de monsieur Bailly, écoutons le docteur Gilbert !» Ah, ces cris Il y eut un moment de halte, quelque chose comme ce calme passager qui s'étend sur les flots entre deux rafales. Weber en profita pour se frayer un chemin jusqu'au docteur. Il y parvint à grand-peine. Ah, « Monsieur le docteur Gilbert, » dit le valet de chambre. Gilbert se retourna du côté d'où venait cette voix. « Ah, » dit-il, « c'est vous, Weber !» Puis, lui faisant signe d'approcher, « Allez, » dit-il tout bas, « annoncez à la reine que je viendrai peut-être plus tard qu'elle ne m'attend. Je suis occupé à sauver un homme. »« Ah oui, oui !» dit le malheureux, entendant ces derniers mots. « Vous me sauverez, n'est-ce pas, docteur? Dites-leur que je suis innocent. Dites-leur que ma jeune femme est enceinte. Je vous jure que je ne cachais pas de pain, docteur !» Mais comme si cette plainte et cette prière du malheureux eussent remis le feu à la haine et à la colère à moitié éteinte, les cris redoublèrent et les menaces essayèrent de se traduire en voix de fait. « Mes amis !» s'écria Gilbert en luttant contre une force surhumaine. « Cet homme est un Français, un citoyen comme vous. On ne peut, on ne doit pas égorger un homme sans l'entendre. Conduisez-le au district et après on verra. » « Oui !» crièrent quelques voix appartenant à ceux qui avaient reconnu le Gilbert. « Monsieur Gilbert, » dit le valet de chambre de la reine, « tenez bon, je vais avertir les officiers du district. Le district est à deux pas, dans 5 minutes, ils seront ici. » Et il se glissa et se perdit à travers la foule, sans même attendre l'approbation de Gilbert. Cependant, 4 ou 5 personnes étaient venues en aide au docteur et avaient fait, avec leur corps, une espèce de retranchement aux malheureux que menaçait la colère de la foule. Ce rempart, tout faible qu'il était, contint momentanément les meurtriers qui continuaient à couvrir de leurs clameurs la voix de Gilbert et celle des bons citoyens qui s'étaient ralliés à lui. Heureusement, au bout de 5 minutes, un mouvement se fait dans la foule, un murmure lui succède, et ce murmure se traduit par les mots « Les officiers du district ! Les officiers du district !» Devant les officiers du district, les menaces s'éteignent, la foule s'écarte, les assassins n'ont probablement pas encore le mot d'ordre. On conduit le malheureux à l'hôtel de ville. Il est attaché au docteur, il le tient par le bras, il ne veut pas le lâcher. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cet homme? Nous allons vous le dire. C'est un pauvre boulanger nommé Denis François, le même dont nous avons déjà prononcé le nom et qui fournit des petits pains à messieurs de l'Assemblée. Le matin, une vieille femme est entrée dans son magasin de la rue du Marché Palu au moment où il vient de distribuer sa 6e fournée de pain et où il commence à cuire la 7e. La femme demande un pain. « Il n'y en a plus, » dit François, « mais attendez, la 7e fournée, vous serez servi la 1ʳᵉ. »« J'en veux tout de suite, » dit la femme, « voici de l'argent. »« Eh, » dit le boulanger, « puisque je vous affirme qu'il n'y en a plus. »« Laissez-moi voir. »« Oh, » dit le boulanger, « entrez, voyez, cherchez, je ne demande pas mieux. » La vieille femme entre, cherche, flaire, furette, ouvre une armoire et, dans cette armoire, trouve 3 pains rassis de 4 livres chacun que les garçons avaient conservés pour eux. Elle en prend un, sort sans payer et, sur la réclamation du boulanger, elle ameute le peuple en criant que François est un affameur et qu'il cache la moitié de sa fournée. Le cri d'affameur désignait à une mort à peu près certaine celui qui en était l'objet. Un ancien recruteur de dragons nommé Fleur d'Épine, qui buvait dans un cabaret en face, sort du cabaret et répète d'une voix avinée le cri poussé par la vieille. À ce double cri, le peuple accourt, hurlant, s'informe, apprend ce dont il est question, répète les cris poussés, se rue dans la boutique du boulanger, force la garde de 4 hommes que la police avait mis à sa porte comme à celle de ses confrères, se répand dans le magasin et, outre les 2 pains rassis laissés et dénoncés par la vieille, trouve 10 douzaines de petits pains frais réservés pour les députés qui tiennent leur séance à l'archevêché, c'est-à-dire à 100 pas de là. Dès lors, le malheureux est condamné. Ce n'est plus une voix, c'est 100 voix, 200 voix, 1000 voix qui crient « À l'affameur !» C'est toute la foule qui hurle « À la lanterne !» En ce moment, le docteur, qui revenait de faire visite à son fils, qu'il avait reconduit chez l'abbé Bérardier au collège Louis-le-Grand, est attiré par le bruit. Il voit tout un peuple qui demande la mort d'un homme et il s'élance au secours de cet homme. Là, en quelques paroles, il avait appris de François ce dont il s'agissait. Il avait reconnu l'innocence du boulanger et il avait essayé de le défendre. Alors la foule avait entraîné ensemble et le malheureux menacé et son défenseur, les enveloppant tous les deux dans le même anathème et prêts à les frapper tous deux du même coup. C'est à ce moment que Weber, envoyé par la reine, était arrivé sur la place Notre-Dame et avait reconnu Gilbert. Nous avons vu qu'après le départ de Weber, les officiers du district étaient arrivés et que le malheureux boulanger avait été, sous leur escorte, conduit à l'hôtel de ville. Accusé, garde du district, populace irritée, tout était entré pêle-mêle dans l'hôtel de ville, dont la place s'était, à l'instant même, encombrée d'ouvriers sans ouvrage et de pauvres diables mourant de faim, toujours prêts à se mêler à toutes les émeutes et à rendre à quiconque était soupçonné d'être la cause de la misère publique une partie du mal qu'il ressentait. Aussi, à peine l'infortuné François eut-il disparu sous le porche béant de l'hôtel de ville, que les cris redoublèrent. Il semblait à tous ces hommes qu'on venait de leur enlever une proie qui leur appartenait. Des individus à figure sinistre sillonnaient la foule en disant à demi-voix « C'est un affameur payé par la cour, voilà pourquoi on veut le sauver ». Et ces mots « c'est un affameur » serpentaient au milieu de cette populace affamée comme une mèche d'artifice, allumant toutes les haines, mettant le feu à toutes les colères. Par malheur, il était bien matin encore, et aucun des hommes qui avaient pouvoir sur le peuple, ni Bailly, ni Lafayette, n'était là. Ils le savaient bien, ceux qui répétaient dans les groupes « c'est un affameur, c'est un affameur ». Enfin, comme on ne voyait pas reparaître l'accusé, les cris se changèrent en un immense « hurrah », les menaces en un hurlement universel. Ces hommes dont nous avons parlé se glissèrent sous le porche, rampèrent le long des escaliers, pénétrèrent jusque dans la salle où était le malheureux boulanger que Gilbert défendait de son mieux. De leur côté, les voisins de François, accourus au tumulte, constataient qu'il avait donné, depuis le commencement de la Révolution, les plus grandes preuves de zèle, qu'il avait cuit jusqu'à 10 fournées par jour, que, lorsque ses confrères manquaient de farine, il leur en avait donné de la sienne, que, pour servir plus promptement son public, outre son four, il louait celui d'un pâtissier où il faisait sécher son bois. À la fin des dépositions, il a démontré qu'au lieu d'une punition, cet homme mérite une récompense. Mais sur la place, mais dans les escaliers, mais jusque dans la salle, on continue à crier « à l'affameur !» et de demander la mort du coupable. Et tout à coup, une irruption inattendue se fait dans la salle, ouvrant la haie de garde nationale qui entoure François et le séparant de ses protecteurs. Gilbert, refoulé du côté du tribunal improvisé, voit 20 bras s'étendre. Saisi, attiré, harponné par eux, l'accusé crie « à l'aide, au secours !» tend ses mains suppliantes, mais inutilement. Inutilement, Gilbert fait un effort désespéré pour le rejoindre. L'ouverture par laquelle le malheureux disparaît peu à peu se referme sur lui. Comme un nageur aspiré par un tourbillon, il a lutté un instant, les mains crispées, le désespoir dans les yeux, la voix étranglée dans la gorge, puis le flot l'a recouvert, le gouffre l'a englouti. À partir de ce moment, il est perdu. Roulé du haut en bas des escaliers, à chaque marche, il a reçu une blessure. Lorsqu'il arrive sous le porche, tout son corps n'est qu'une vaste plaie. Ce n'est plus la vie qu'il demande, c'est la mort. Où se cachait donc la mort à cette époque qu'elle était si prête à accourir quand on l'appelait? En une seconde, la tête du malheureux François est séparée du corps et s'élève au bout d'une pique. Au cri de la rue, les émeutiers qui sont dans les escaliers et dans les salles se précipitent. Il faut voir le spectacle jusqu'au bout. C'est curieux, une tête au bout d'une pique. On n'en a plus vu depuis le 6 octobre et on en est au 21. « Oh, Billot, Billot !» murmura Gilbert en s'élançant hors de la salle, « que tu es heureux d'avoir quitté Paris !» Il venait de traverser la place de Grève, suivant le bord de Seine, laissant s'éloigner cette pique, cette tête sanglante, et le convoi hurlant par le pont Notre-Dame, lorsqu'à moitié du quai Pelletier, il sentit qu'on lui touchait le bras. Il leva la tête, jeta un cri, voulut s'arrêter et parler, mais l'homme qu'il avait reconnu lui glissa un billet dans la main, mit un doigt sur sa bouche et s'éloigna, allant du côté de l'archevêché. Sans doute, ce personnage désirait garder l'incognito, mais une femme de la halle, l'ayant regardé, battit des mains et s'écria « Hé, c'est notre petite mère Mirabeau !»« Vive Mirabeau !» crièrent aussitôt 500 voix. « Vive le défenseur du peuple ! Vive l'orateur patriote !» Et la queue du cortège, qui suivait la tête du malheureux François, entendant ce cri, se retourna et fit escorte à Mirabeau, qu'une foule immense accompagna, toujours criant, jusqu'à la porte de l'archevêché. C'était en effet Mirabeau, qui, se rendant à la séance de l'Assemblée, avait rencontré Gilbert et lui avait remis un billet qu'il venait d'écrire pour lui, sur le comptoir d'un marchand de vin, et qu'il se proposait de lui faire parvenir à domicile. Gilbert avait lu rapidement le billet que lui avait glissé Mirabeau, l'avait relu plus lentement une seconde fois, l'avait remis dans sa poche, et appelant un fiacre, il avait donné l'ordre de le conduire aux Tuileries. En arrivant, il avait trouvé les grilles closes et les sentinelles doublées par ordre de Monsieur de Lafayette, qui, sachant qu'il y avait du trouble dans Paris, avait commencé par aviser à la sûreté du roi et de la reine, et s'était porté ensuite au lieu où on lui avait dit que le trouble existait. Gilbert se fit reconnaître du concierge de la rue de l'Échelle et pénétra dans les appartements. En l'apercevant, Madame Campan, qui avait reçu le mot d'ordre de la reine, vint au-devant de lui et l'introduisit aussitôt. Weber, pour obéir à la reine, était retourné aux nouvelles. À la vue de Gilbert, la reine poussa un cri. Une portion de l'habit et du jabot du docteur avait été déchirée dans la lutte qu'il avait soutenue pour sauver le malheureux François, et quelques gouttes de sang mouchetaient sa chemise. « Madame, dit-il, je demande pardon à votre majesté de me présenter ainsi devant elle, mais je l'avais, malgré moi, déjà fait attendre assez longtemps, et je ne voulais pas la faire attendre davantage. »« Et ce malheureux, monsieur Gilbert ?»« Il est mort, madame. Il a été assassiné, mis en morceaux. »« Était-il coupable, au moins ?»« Il était innocent, madame. » « Ah, monsieur, voilà les fruits de votre révolution. Après avoir égorgé les grands seigneurs, les fonctionnaires, les gardes, les voilà qui s'égorgent entre eux. Mais il n'y a donc pas moyen de faire justice de ces assassins. Nous y tâcherons, madame, mais mieux vaudrait encore prévenir les meurtres que punir les meurtriers. Et comment arriver là, mon Dieu? Le roi et moi ne demandons pas mieux. » « Madame, tous ces malheurs viennent d'une grande défiance du peuple envers les agents du pouvoir. Mettez à la tête du gouvernement des hommes qui aient la confiance du peuple et rien de pareil n'arrivera plus. »« Ah oui, monsieur de Mirabeau, monsieur de Lafayette, n'est-ce pas ? J'espérais que la reine m'avait envoyé chercher pour me dire qu'elle avait obtenu du roi qu'il cessât d'être hostile à la combinaison que je lui avais proposée. » D'abord, docteur, dit la reine, vous tombez dans une grave erreur, erreur où du reste tombent beaucoup d'autres que vous. Vous croyez que j'ai de l'influence sur le roi, c'est madame Élisabeth et non pas moi. Et la preuve, c'est qu'hier encore, il a envoyé en mission un de mes serviteurs, monsieur de Charny, sans que je sache ni où il va, ni dans quel but il est parti. Et cependant, si la reine voulait surmonter sa répugnance pour monsieur de Mirabeau, je lui répondrais bien d'amener le roi à mes désirs. « Voyons, monsieur Gilbert, reprit vivement la reine, me direz-vous par hasard que cette répugnance n'est pas motivée ? En politique, madame, il ne doit y avoir ni sympathie ni antipathie, il doit y avoir des rapports de principe ou des combinaisons d'intérêts, et je dois dire à votre majesté, à la honte des hommes, que les combinaisons d'intérêts sont bien autrement sûres que les rapports de principe. Docteur, me direz-vous sérieusement que je dois me fier à un homme qui a fait les 5 et 6 octobre et pactisé avec un orateur qui m'a publiquement insulté à la tribune? Madame, croyez-moi, ce n'est point Monsieur de Mirabeau qui a fait les 5 et 6 octobre. C'est la faim, la disette, la misère qui ont commencé l'œuvre du jour. Mais c'est un bras puissant, mystérieux, terrible qui a fait l'œuvre de la nuit. Peut-être un jour serai-je à même de vous défendre de ce côté et de lutter avec cette ténébreuse puissance qui poursuit, oh, non seulement vous, mais encore toutes les autres têtes couronnées, non seulement le trône de France, mais encore tous les trônes de la terre. Aussi vrai comme j'ai l'honneur de mettre ma vie à vos pieds et à ceux du roi, madame, monsieur de Mirabeau n'est pour rien dans cette terrible journée, et il a appris à l'Assemblée, comme les autres, un peu avant les autres peut-être, par un billet qui lui a été remis, que le peuple marchait sur Versailles. Nierez-vous aussi ce qui est de notoriété publique, c'est-à-dire l'insulte qu'il m'a faite à la tribune? Madame, monsieur de Mirabeau est un de ces hommes qui connaissent leur propre valeur et qui s'exaspèrent quand, voyant à quoi ils sont bons et de quelle aide ils peuvent être, les rois s'obstinent à ne pas les employer. Oui, pour que vous tourniez les yeux vers lui, madame, monsieur de Mirabeau emploiera jusqu'à l'injure, mais il aimera mieux que l'illustre fille de Marie-Thérèse, reine et femme, jette sur lui un regard courroucé que de ne pas le regarder du tout. Ainsi, vous croyez, monsieur Gilbert, que cet homme consentirait à être à nous? Il y est tout entier, madame. Quand Mirabeau s'éloigne de la royauté, c'est comme un cheval qui fait des écarts et qui n'a besoin que de sentir la bride et l'éperon de son cavalier pour rentrer dans le droit chemin. Mais étant déjà à monsieur le duc d'Orléans, il ne peut cependant être à tout le monde. Voilà où est l'erreur, madame. Monsieur de Mirabeau n'est pas à monsieur le duc d'Orléans, répéta la reine. Il est si peu à monsieur le duc d'Orléans que lorsqu'il a appris que le prince s'était retiré en Angleterre devant les menaces de monsieur de Lafayette, il a dit, en froissant dans ses mains le billet de monsieur de Lauzun qui lui annonçait ce départ, on prétend que je suis du parti de cet homme, je ne voudrais pas de lui pour mon laquais. Allons, voilà qui me raccommode un peu avec lui, dit la reine en essayant de sourire, et si je croyais qu'on pût véritablement compter sur lui, eh bien, peut-être serais-je moins éloigné que le roi de revenir à lui. Madame, le lendemain du jour où le peuple a ramené de Versailles votre majesté, ainsi que le roi et la famille royale, j'ai rencontré monsieur de Mirabeau. Enivré de son triomphe de la veille, épouvanté des dangers que vous couriez et de ceux que vous pouviez courir encore. En vérité, vous êtes sûr, dit la reine d'un air de doute. Voulez-vous que je vous rapporte les paroles qu'il m'a dites? Oui, vous me feriez plaisir. Eh bien, les voici, mot pour mot. Je les ai gravés dans ma mémoire, espérant que j'aurai un jour l'occasion de les répéter à votre majesté. Si vous avez quelque moyen de vous faire entendre du roi et de la reine, persuadez-leur que la France et eux sont perdus si la famille royale ne sort pas de Paris. Je m'occupe d'un plan pour les en faire sortir. Seriez-vous en mesure d'aller leur donner l'assurance qu'ils peuvent compter sur moi? La reine devint pensive. Ainsi dit-elle, l'avis de monsieur de Mirabeau est aussi que nous quittions Paris. C'était son avis à cette époque-là. Et il en a changé depuis. Oui, si j'en crois un billet que j'ai reçu il y a une demi-heure. De qui? De lui-même. Peut-on voir ce billet? Il est destiné à votre majesté. Et Gilbert tira le papier de sa poche. Votre majesté excusera, dit-il, mais il a été écrit sur du papier à écolier sur le comptoir d'un marchand de vin. Oh, ne vous inquiétez pas de cela, papier et pupitre, tout est en harmonie avec la politique qui se fait en ce moment-ci. La reine prit le papier et lut. L'événement d'aujourd'hui change les choses de face. On peut tirer un grand parti de cette tête coupée. L'Assemblée va avoir peur et demandera la loi martiale. Monsieur de Mirabeau peut appuyer et faire voter la loi martiale. Monsieur de Mirabeau peut soutenir qu'il n'y a de salut qu'en rendant la force au pouvoir exécutif. Monsieur de Mirabeau peut attaquer Monsieur Necker sur les subsistances et le renverser. Qu'à la place du ministère Necker, on fasse un ministère Mirabeau et Lafayette, et Monsieur de Mirabeau répond de tout. Eh bien, dit la reine, ce billet n'est pas signé. N'ai-je pas eu l'honneur de dire à votre majesté que c'était Monsieur de Mirabeau lui-même qui me l'avait remis? Que pensez-vous de tout cela? Mon avis, madame, est que Monsieur de Mirabeau a parfaitement raison et que l'alliance qu'il propose peut seule sauver la France. Soit que Monsieur de Mirabeau me fasse passer, par vous, un mémoire sur la situation et un projet de ministère. Je mettrai le tout sous les yeux du roi. Et votre majesté l'appuiera, et je l'appuierai. Ainsi, en attendant, et comme premier gage donné, Monsieur de Mirabeau peut soutenir la loi martiale et demander que la force soit rendue au pouvoir exécutif. Il le peut. En échange, au cas où la chute de Monsieur Necker deviendrait urgente, un ministère Lafayette et Mirabeau ne serait pas défavorablement reçu. Par moi, non. Je peux prouver que je suis prête à sacrifier tous mes sentiments personnels au bien de l'État. Seulement, vous le savez, je ne réponds pas du roi. Monsieur nous seconderait dans cette affaire. Je crois que monsieur a ses projets à lui qui l'empêcheraient de seconder ceux des autres. Et des projets de monsieur, la reine n'a aucune idée. Je crois qu'il est du premier avis de Monsieur de Mirabeau, c'est-à-dire que le roi doit quitter Paris. Votre Majesté m'autorise à dire à Monsieur de Mirabeau que ce mémoire et ce projet de ministère sont demandés par Votre Majesté. Je fais Monsieur Gilbert juge de la mesure qu'il doit garder vis-à-vis d'un homme qui est notre ami d'hier et qui peut redevenir notre ennemi demain. Oh, sur ce point, rapportez-vous-en à moi, madame. Seulement, comme les circonstances sont graves, il n'y a pas de temps à perdre. Permettez-moi donc que j'aille à l'Assemblée et que j'essaye de voir Monsieur de Mirabeau aujourd'hui même. Si je le vois, dans 2 heures, votre majesté aura la réponse. La reine fit de la main un signe d'assentiment et de congé. Gilbert sortit. Un quart d'heure après, il était à l'Assemblée. L'Assemblée était en émoi à cause de ce crime commis à ses portes et sur cet homme qui était en quelque sorte son serviteur. Les membres allaient et venaient de la tribune à leur banc et de leur banc au corridor. Mirabeau seul se tenait immobile à sa place. Il attendait, les yeux fixés sur la tribune publique. En apercevant Gilbert, sa figure de lion s'éclaira. Gilbert lui fit un signe auquel il répondit par un mouvement de tête de haut en bas. Gilbert déchira une page de ses tablettes et écrivit « Vos propositions sont accueillies, sinon par les deux parties, du moins par celle que vous croyez et que je crois aussi la plus influente des deux. On demande un mémoire pour demain, un projet de ministère pour aujourd'hui. Faites rendre la force au pouvoir exécutif. » Et le pouvoir exécutif comptera avec vous. » Puis il plia le papier en forme de lettre, écrivit sur l'adresse « à Monsieur de Mirabeau », appela un huissier et fit porter le billet à sa destination. De la tribune où il était, Gilbert vit entrer l'huissier dans la salle, il le vit se diriger droit vers le député d'Aix et lui remettre le billet. Mirabeau le lut avec une expression de si profonde indifférence qu'il eût été impossible à son plus proche voisin de deviner que le billet qu'il venait de recevoir correspondait à ses plus ardents désirs, et avec la même indifférence, sur une demi-feuille de papier qu'il avait devant lui, il traça quelques lignes, plia négligemment le papier, et toujours avec la même insouciance apparente, le donnant à l'huissier. « À la personne qui vous a remis le billet que vous m'avez apporté, dit-il. » Gilbert ouvrit vivement le papier. il contenait ces quelques lignes qui renfermaient peut-être pour la France un autre avenir si le plan qu'elle proposait avait pu être mis à exécution. Je parlerai, demain j'enverrai le mémoire, voici la liste demandée, on pourra modifier deux ou trois noms. Monsieur Necker, Premier ministre. Ce nom fit presque douter à Gilbert que ce billet qu'il lisait fût de la main de Mirabeau, mais comme une note prise entre deux parenthèses suivait ce nom ainsi que les deux autres noms, Gilbert reprit « Monsieur Necker, Premier ministre, il faut le rendre aussi impuissant qu'il est incapable et cependant conserver sa popularité au roi. L'archevêque de Bordeaux, chancelier, on lui recommandera de choisir avec grand soin ses rédacteurs. Le duc de Liancourt à la guerre. Il a de l'honneur, de la fermeté, de l'affection personnelle pour le roi, ce qui donnera au roi de la sécurité. Le duc de La Rochefoucauld, maison du roi, ville de Paris. Touret avec lui. Le comte de la Marque à la marine. Il ne peut pas avoir le département de la guerre qu'il faut donner à monsieur de Liancourt. Monsieur de la Marque a fidélité, caractère et exécution. L'évêque d'Autun, ministre des Finances. Sa motion du clergé lui a conquis cette place, l'aborde avec lui. Le comte de Mirabeau au conseil du roi, sans département. Les petits scrupules du respect humain ne sont plus de saison. Le gouvernement doit affirmer tout haut que ses premiers auxiliaires seront désormais les bons principes, le caractère et le talent. Target, maire de Paris. La basoche le conduira toujours. Lafayette, au conseil, maréchal de France, généralissime à terme pour refaire l'armée. Monsieur de Montmorin, gouverneur, duc et pair, ses dettes payées, monsieur de Ségur, de Russie, aux affaires étrangères, monsieur Mounier, à la bibliothèque du roi, monsieur Chapelier, au bâtiment. Au-dessous de cette première note était écrite une seconde, part de Lafayette, ministre de la Justice, le duc de La Rochefoucauld, ministre des Affaires étrangères, l'évêque d'Autun, ministre des Finances, Lambert Allaire ou Clavière, ministre de la Marine, trois points. Part de la reine, ministre de la guerre ou ministre de la marine Lamarque, chef du conseil d'instruction et d'éducation publique, l'abbé Sieyès, garde du sceau privé du roi, trois points. Cette seconde note indiquait évidemment les changements et modifications qui pouvaient être faits à la combinaison proposée par Mirabeau sans apporter d'obstacle à ses vues, de troubles dans ses projets. Tout cela était écrit d'une écriture légèrement tremblée qui prouvait que Mirabeau, indifférent à la surface, ressentait une certaine émotion à l'intérieur. Gilbert lut rapidement, déchira une nouvelle feuille de papier à ses tablettes et écrivit dessus les trois ou quatre lignes suivantes qu'il remit, après les avoir écrites, à l'huissier qu'il avait prié de ne pas s'éloigner. Je retourne chez la maîtresse de l'appartement que nous voulons louer et lui apporte les conditions auxquelles vous consentez à prendre et à réparer la maison. Faites-moi connaître chez moi, rue Saint-Honoré, au-dessus de l'Assomption, en face de la boutique d'un menuisier nommé Duplay, le résultat de la séance aussitôt qu'elle sera terminée. Toujours avide de mouvements et d'agitation, espérant combattre par les intrigues politiques les passions de son cœur, la reine attendait le retour de Gilbert avec impatience, en écoutant le nouveau récit de Weber. Ce récit était le terrible dénouement de la terrible scène dont Weber avait vu le commencement et venait de voir la fin. Renvoyé aux informations par la reine, il était arrivé par une extrémité du pont Notre-Dame, tandis qu'à l'autre extrémité de ce pont apparaissait le sanglant cortège portant comme étendard de meurtre la tête du boulanger François, que par une de ces dérisions populaires pareilles à celles qui avaient fait coiffer et raser les têtes des gardes du corps au pont de Sèvres, un des assassins plus facétieux que les autres avait coiffé d'un bonnet de coton pris à l'un des confrères de la victime. au tiers du pont à peu près, une jeune femme pâle, effarée, la sueur au front, et qui, malgré un commencement de grossesse déjà visible, courait d'une course aussi rapide que possible vers l'hôtel de ville, s'arrêta tout à coup. Cette tête, dont elle n'avait pas pu encore distinguer les traits, avait cependant, à distance, produit sur elle l'effet du boucher antique. Et, au fur et à mesure que la tête s'approchait, il était facile de voir, par la décomposition des traits de la pauvre créature, qu'elle n'était point changée en pierre. Quand l'horrible trophée ne fut plus qu'à 20 pas d'elle, elle jeta un cri, étendit les bras avec un mouvement désespéré, et, comme si ses pieds se fussent détachés de la terre, elle tomba évanouie et couchée sur le pont. C'était la femme de François, enceinte de 5 mois. On l'avait emportée sans connaissance. « Oh mon Dieu !» murmura la reine, « c'est un terrible enseignement que vous envoyez à votre servante pour lui apprendre que, si malheureux qu'on soit, il existe plus malheureux encore. » En ce moment, Gilbert entra, introduit par Madame Campan, qui avait remplacé Weber dans la garde de la porte royale. Il trouva non plus la reine, mais la femme, c'est-à-dire l'épouse, c'est-à-dire la mère, écrasée sous ce récit qui l'avait frappée 2 fois au cœur. La disposition n'en était que meilleure, puisque Gilbert, à son avis du moins, venait offrir le moyen de mettre un terme à tous ces assassinats. Aussi la reine, essuyant ses yeux où roulaient des larmes, son front où perlait la sueur, prit-elle des mains de Gilbert la liste qu'il rapportait. Mais avant que de jeter les yeux sur ce papier, si important qu'il fût, « Weber, dit-elle, si cette pauvre femme n'est pas morte, je la recevrai demain, et si elle est véritablement enceinte, je serai la marraine de son enfant. » « Ah, madame, madame !» s'écria Gilbert, « pourquoi tous les Français ne peuvent-ils pas, comme moi, voir les larmes qui coulent de vos yeux, entendre les paroles qui sortent de votre bouche ?» La reine tressaillit. C'était les mêmes mots, à peu près, que, dans une circonstance moins critique, lui avait adressé Charny. Elle jeta un coup d'œil sur la note de Mirabeau, mais trop troublée dans ce moment pour faire une réponse convenable. « C'est bien, docteur, dit-elle, laissez-moi cette note, je réfléchirai et vous rendrai réponse demain. » Puis, peut-être sans savoir ce qu'elle faisait, elle tendit vers Gilbert une main que celui-ci, tout surpris, effleura du bout des doigts et des lèvres. C'était déjà une terrible conversion, on en conviendra, pour la fière Marie-Antoinette, que de discuter à un ministère dont faisaient partie Mirabeau et Lafayette, et de donner sa main à baiser au docteur Gilbert. À 7 heures du soir, un valet sans livrée remit à Gilbert le billet suivant. « La séance a été chaude, la loi martiale a été votée, Buzot et Robespierre voulaient la création d'une haute cour. J'ai fait décréter que les crimes de lèse-nation, c'est un nouveau mot que nous venons d'inventer, seraient jugés par le tribunal royal du Châtelet. J'ai placé, sans détour, le salut de la France dans la force de la royauté, et les 3/4 de l'Assemblée ont applaudi. Nous sommes au 21 octobre, j'espère que la royauté a fait bon chemin depuis le 6. Valet et me ama. Le billet n'était pas signé, mais il était de la même écriture que la note ministérielle et que le billet du matin, ce qui revenait absolument au même, puisque cette écriture était celle de Mirabeau.